He's done so much for me, I cannot tell it all. Narekelemo. If I had some souls and tongues, it'd still not be enough. Narekelemo. What shall I render? Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Narekelemo. Gloire à Dieu. En ce moment, je vais juste entendre deux ou trois. Nous avons eu à suivre cette série depuis déjà 4 dimanches. Et sûrement, tu as eu quelque chose que tu as appris, une expérience, quelque chose qui t'a transformé, quelque chose que tu faisais, que tu ne fais plus. Peut-être si toi aussi tu avais des histoires dans ta tête que tu as fait passer, quoi. Alors, qui va parler? Un témoignage. Juste quelque chose qu'il a béni au courant de cette série. Je vais donner la parole à 3 personnes, 2 dames et 1 homme. Qui va être le premier? Nanjo Tako Okwanza. Il y a une dame là-bas, Média.
Shalom.
Shalom.
Ce qui m'a béni, c'est l'intervention du pasteur Smith lorsqu'il avait dit que ce qui nous rend des hommes redoutables face au diable, c'est notre cœur pour Dieu. Ça m'avait béni.
Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Qui d'autre a quelque chose à dire par rapport à la série, par rapport à tout ce qu'on a entendu? Merci, frère. Il y a une main là-bas derrière.
Merci. Tout au long de la série, j'ai été béni par tant de choses, surtout la prédication de la fois passée, quand on disait que Dieu parle avec nous et il ne parlait pas par la voix parce que il peut intervenir même dans nos passés. Oui. J'étais parmi ceux qui se lamentaient souvent. Je me disais, dans la Bible, on nous raconte bien qu'avant, Dieu parlait avec Moïse, parlait avec qui oralement. Et je me disais, pourquoi Dieu ne parlait pas avec nous? Mais quand on m'a fait comprendre que Dieu peut parler avec moi à partir de mes passés, j'ai vraiment été béni. Et j'ai compris que Dieu me parlait toujours. J'ai compris que Dieu nous parlait toujours.
Merci, frère. C'est très fort. C'est très, très fort. Moi aussi, j'étais parmi ceux qui pensaient de la manière dont le frère vient de le dire. Mais grâce à la prédication de la semaine passée, je me suis dit, ah, donc, quand j'ai eu ça dans mes pensées, c'était Dieu. Et ça, il est quoi, trop tard. Mais bon, que Dieu m'aide, que je puisse faire ce qu'il me demande de faire. Une 3e personne. Il y a une main ici.
En fait, ce qui m'avait béni, c'est le titre elle-même. C'est victorieux. Donc, si Jésus était mort pour nous, il a vaincu la mort. Et si on ne vit pas cette victoire, à quoi ça sert?
Merci, frère. Si on ne reconnaissait pas la victoire de Jésus alors qu'il a été victorieux, à quoi ça servirait sa mort? C'est très profond. Bonus? Oui, là.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, ma bénédiction, elle est simple. On nous avait juste dit que notre victoire, c'est Jésus-Christ. Donc nous cherchons la victoire, nous cherchons à être forts, je ne sais pas. Nous cherchons beaucoup de trucs, mais dans tout ça, notre vie, notre gain, dans Christ, c'est Christ lui-même.
Exact.
C'est ça ma bénédiction.
Merci, merci ma sœur. Que Dieu vous bénisse pour toutes les questions que vous venez de poser. Alors aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est le jour du panel. Donc nous aurons à répondre aux questions que la plupart d'entre vous ont posées. Alors avant que nous puissions répondre à ces questions, est-ce qu'il y a une personne qui aurait voulu poser la question mais qui n'a pas pu? Alors aujourd'hui, avant de commencer ce panel, je peux juste lever la main, poser la question directement avant que nous puissions inviter les orateurs de ces jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu poser la question pendant tous ces temps et qui voudrait poser la question? Oui, frère, ici. Je donne l'occasion à deux personnes.
C'est par rapport à la voix intérieure. On nous a dit que Dieu nous parle à travers la voix intérieure. Mais en moi, il y a deux voix intérieures, souvent. Je ne sais pas choisir laquelle entre ces deux voix intérieures qui me parlent. Or, Jésus, en Matthieu, il a dit, c'est du cœur d'où viennent les mauvaises pensées, les impudicités, les vols, tout viennent du cœur. Aussi, le Saint-Esprit aussi nous parle à travers le cœur. Mais devant un choix, comment saurais-je la voix intérieure divine et la voix intérieure diabolique?
Merci frère, une très bonne question. Alors nous allons, sous vos applaudissements s'il vous plaît, accueillir l'orateur du jour. Papa Abel Mouissa. Acclamations à Mingisana pendant qu'il est en train de venir. Papa Abel. Encore. Jusqu'à ce qu'il arrive, s'il vous plaît. C'est pas question de jalousie. Il faut acclamer bien. Comme il le mérite. Merci Papa Abel, bonjour.
Bonjour Annette.
J'espère que vous allez bien.
Oui, oui.
Nous ne serons pas seuls. Il y a sûrement le pasteur Smith qui est déjà ici, mais qui va nous rejoindre d'ici peu. Alors, pendant la semaine, il y a plusieurs questions qui ont été posées par rapport aux enseignements, par rapport à tout ce qu'on a entendu. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déjà commencer à répondre à la première question du frère?
Merci pour l'intérêt, merci pour les contributions qui ont été partagées tout à l'heure. Comment discerner la voix intérieure? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, il montre que c'est possible de discerner la volonté de Dieu. Et le discernement, c'est quelque chose que... C'est-à-dire, le discernement, quand je parle de discernement, ça veut dire distinguer, faire la distinction. Le discernement, l'Esprit de Dieu nous le donne. Alors, Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La voix du Saint-Esprit, nous pouvons la discerner d'abord si nous sommes dans un processus de transformation intérieure. Et en quoi consiste cette transformation? Cette transformation consiste à se conformer chaque jour à l'image de Christ, devenir comme Christ. De la même manière qu'un enfant, quand il grandit, un enfant, quand il est encore tout petit, il entend. Un enfant naît avec la capacité d'entendre. Mais vous lui dites des choses, certains mots, il les comprend, d'autres, il ne les comprend pas. C'est en grandissant que la capacité de cet enfant à distinguer les mots les phrases, les idées se développent. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose dans laquelle nous grandissons aussi. Nous grandissons dans cela, c'est un processus. Alors, comment on grandit? On grandit en se nourrissant. Il faut manger pour grandir. Et la parole de Dieu est la nourriture de nos âmes. Quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, cette parole a été inspirée par Dieu. Dieu a parlé. Dieu nous a parlé par les hommes. Cette parole a été inspirée par Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc lorsque nous étudions cette parole, j'insiste sur le mot étudier, pas lire seulement, mais l'étudier. C'est-à-dire lorsque nous prenons le temps de lire cette parole avec l'objectif de découvrir celui qui l'a inspirée, nous prenons le temps de la lire, nous devenons familiers au langage de Dieu, nous devenons familiers aux valeurs de Dieu, nous devenons familiers au discours de Dieu. Et lorsque nous entendons une voix, pas seulement une voix intérieure, même une voix extérieure, nous pouvons la valider par rapport à la parole de Dieu dont nous nous nourrissons tous les jours. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, lorsqu'il annonçait le Saint-Esprit à ses disciples, il a dit dans Jean 16, « Il vous rappellera, il vous rappellera ce qu'il aura entendu. » Donc, il y a des choses que, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, avait déjà entendu les paroles du Christ. Et Jésus savait qu'il arriverait un moment où beaucoup de choses qu'il leur a dit, il a même dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Donc il y a ce travail-là, le Saint-Esprit le fait, de nous rappeler la parole de Dieu. Le problème avec les enfants, beaucoup de chrétiens, c'est que ils viennent à l'église, ils entrent dans les activités de l'église, mais leur vie personnelle, leur communion personnelle avec Christ n'est pas très développée. C'est-à-dire, ils ne prennent pas le temps individuellement d'étudier et de sonder les Écritures. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est le travail des pasteurs. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a rendu la parole aussi disponible aujourd'hui. Donc nous pouvons connaître cette parole en la méditant. Et si vous avez l'habitude de la méditer, ça devient très facile de reconnaître le vrai du faux. J'ai appris que les agents de la police fédérale américaine qui sont entraînés à détecter les faux dollars, les faux billets de banque, vous savez comment ils sont entraînés? On ne les expose pas à tous les faux billets. On les expose tout simplement aux vrais dollars. Ils deviennent familiers aux vrais dollars. De sorte que lorsqu'ils sont en présence du faux dollar, ils peuvent le détecter facilement. Donc si vous connaissez Dieu au travers de sa parole, si vous vous enracinez dans la parole de Dieu, ça devient facile de détecter que ça, ce n'est pas Dieu. Ça devient très facile. Donc, il n'y a pas une formule que nous allons vous donner pour dire, voilà, lorsque vous entendez ça, faites 1, 2, 3. Non, vous devez grandir dans la connaissance de Dieu par les Écritures. C'est en connaissant Dieu par les Écritures que lorsque vous entendez une voix, qu'elle soit intérieure, qu'elle vienne de la chair ici, que vous pouvez dire, ça, ce n'est pas Dieu.
Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette intervention? Merci beaucoup, Papa Abel. Pendant ce moment, nous allons accueillir notre deuxième orateur, le pasteur Smith, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il va se lever et rejoindre déjà son siège. Bienvenue, pasteur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien.
Oui.
Ah, très bien. Alors, sans plus tarder, je vais quand même commencer par vous. Il y a une personne qui a posé la question de savoir, bon, j'ai entendu la voix de Dieu. Par exemple, il m'a dit, c'est toi qui vas sauver cette famille. Alors tu commences, tu évolues dans tes études, tu finis, tu es excellent. Mais après les études, 1 mois chômage, 2 mois chômage, 3 ans chômage, alors que c'est toi qui étais censé être le sauveur de la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croire que ce n'était pas Dieu? Est-ce qu'il faut continuer à croire? Est-ce qu'il faut douter de la promesse de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci pour cette merveilleuse question. Je reconnais que c'est tout un sujet, mais je vais vraiment essayer d'être très bref. Ce n'est pas parce que Dieu nous a fait une promesse que la vie deviendra facile après. Il est important que tout chrétien comprenne cela. Ce n'est pas parce que je suis porteur d'une promesse que les choses seront faciles. Mais lorsque le Seigneur nous adresse une promesse, c'est afin que nous ayons une raison de tenir et de persévérer sur le chemin de l'obéissance lorsque l'adversité se lèvera. Lorsque le Seigneur a fait la promesse à Abraham, elle s'est accomplie 25 ans après. Le Seigneur, en nous donnant des promesses, nous donne une raison de nous réveiller le matin. Le sage dit, il y a de l'espoir, de l'espérance pour ceux qui vivent. Mais il y a beaucoup plus d'espérance pour ceux qui vivent en portant l'idéal d'une promesse que Dieu leur a donnée. Et ce n'est pas parce que l'adversité se lève qu'on s'est trompé de chemin. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et la vie d'Abraham nous enseigne que Dieu a accompli la promesse qu'il lui avait faite, mais Abraham a dû payer le prix de la persévérance et le prix de la constance. Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous subissions l'épreuve du temps? C'est parce que le temps révèle la qualité de notre foi. Était-elle le résultat d'une excitation pendant le message ou repose-t-elle, comme le disait le docteur Abel, sur une conviction de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie? Pourquoi est-ce que Dieu expose l'homme à l'épreuve du temps? C'est parce que le temps révèle la nature du cœur de l'homme. Lorsque Dieu nous adresse des grandes promesses, cela sous-entend qu'il nous fera passer sur le chemin de la préparation pour la possession de cette promesse. Et lorsque la promesse se tarde, Habakkuk dit, ne te débrouille pas, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur Smith, pour cette intervention. Sinon, j'ai une question pour vous, Papa Abel. Quels sont les indices qui montrent que je suis équipée pour être victorieuse ou victorieux?
Les indices qui montrent que je suis équipée. Bon, cette question m'a fait penser à ce que Paul disait aux Éphésiens, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Paul parle des armes, parle de revêtir les armes spirituelles afin de tenir. L'équipement est toujours disponible. L'équipement est là. Paul parle de la vérité, la justice, le zèle pour les choses de Dieu. Il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole. Toutes ces choses, nous les avons. La parole de Dieu, par exemple, elle est disponible. Chacun de nous l'a. Et la vérité, nous connaissons la vérité. La vérité est une personne, Jésus-Christ. Donc, l'équipement est disponible. La question, peut-être, c'est de savoir, est-ce que nous prenons ces armes? Est-ce que nous les prenons? Lorsque, dans Éphésiens, Paul dit « revêtez-vous », et puis il dit « prenez », ce sont des choses que nous devons prendre. Ce sont des choses que dont nous devons nous revêtir. Nous devons les appliquer à nous. Je dois prendre la décision de me revêtir des armes que le Saint-Esprit met à ma disposition. Alors, la question, c'est d'abord à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous faisons des armes que le Seigneur nous a données? Voilà.
Alors, comment savoir que vous êtes équipé? Vous le savez lorsque la parole de Dieu abonde dans votre cœur. Lorsque vous connaissez les Écritures, vous savez que vous êtes équipé pour vaincre. Oui. Regardez Jésus dans le désert. Jésus dans le désert, lorsqu'il fait face à la tentation par le diable, Jésus répond au diable avec les Écritures. Parce que il avait pris le temps, dès son bas âge, de fréquenter le lieu où la parole était enseignée. C'était ça, Jésus. Donc, comment savoir? Vous le savez si la parole de Dieu abonde en vous. Vous le savez si vous marchez dans la vérité. Vous savez que vous êtes équipé. Devant un sorcier, si un esprit méchant ou un sorcier vous attaque, vous serez en insécurité si vous savez que votre relation avec Dieu n'est pas bonne. Vous allez trembler. Quand il y a manifestation, si jamais il y a manifestation démoniaque ici, vous allez paniquer si vous savez que vous marchez dans la désobéissance. Mais si vous marchez dans la vérité, si la parole de Dieu est en vous, vous n'allez pas paniquer. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous ne nous donne pas, ce n'est pas un esprit de peur. Donc, l'équipement est là, mais nous devons prendre la décision de nous en revêtir. Et c'est là que nous avons notre responsabilité à nous, les enfants de Dieu, à ce niveau-là.
Merci, Papa Abel. Une autre question pour vous, Pasteur Smith. Alors, que faire lorsque nous ne faisons plus confiance à notre entourage suite aux déceptions de la vie?
Que faire lorsque nous ne faisons plus confiance à notre entourage suite aux déceptions de la vie? Mon pasteur avait l'habitude de dire, quand une déception subvient dans la vie d'un homme, les responsabilités sont partagées. Lorsque toi, tu ne sais plus faire confiance à ton entourage, peut-être que c'est l'entourage aussi qui ne te fait plus confiance. Il est quand même important de comprendre que ça dépend d'un contexte à un autre. Mais j'aimerais quand même préciser une chose, il y a des entourages qui ne méritent pas notre confiance. J'aime bien le répéter, mes frères, nous sommes fatigués de ce christianisme naïf, où au nom de la foi chrétienne, nous nous livrons au premier venu. Lorsque vous ne savez plus faire confiance à une personne, c'est que vous savez que la personne n'est pas vraie avec vous. C'est que vous avez conscience qu'elle ne vous aime pas, mais elle vous exploite. Lorsqu'une personne vous exploite, il est plus qu'important que de prendre des dispositions. Frère, tu ne feras pas confiance à tout le monde. Mais il est important de savoir, est-ce que ta méfiance est un témoignage de la conviction ou le fruit tout simplement de la suspicion? Parce qu'il ne faudrait pas aussi tomber dans la suspicion, parce que l'amour vrai croit tout. Mais il arrivera des moments où le Seigneur te dira, fais attention. Face à la déception de la vie, la meilleure façon de réagir, comment? Et ensuite, apprenez à vivre avec les personnes qui vous ont déçu. Lorsque Dieu permet qu'une circonstance arrive dans votre vie et que vous subissez une déception, c'est parce que premièrement, il veut vous révéler la nature des personnes qui vous entourent. Deuxièmement, il veut vous révéler les limites de votre cœur. Mais troisièmement, il veut que vous appreniez à vivre prudemment avec les personnes qui vous entourent. Parce que le diable se déguisera en ange de lumière pour nous séduire. J'aimerais peut-être renchérir un tout petit peu ou ajouter sur ce que le docteur Abel disait et compléter ce que je suis en train de dire. Comment savoir qu'on est équipé pour la victoire? Je reviens sur ce que le docteur Abel disait, mais en deux mots différents. C'est par le témoignage de l'esprit. C'est par le témoignage de l'esprit. Je vous renverrai la question de savoir comment savez-vous que vous êtes enfant de Dieu? Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que lorsque Jésus reviendra, vous partirez? Le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. De la même manière, le Saint-Esprit témoigne aussi en chacun de nous que tu n'es pas équipé. Tu es nu. ta communion avec le Père n'est pas bonne. On peut être équipé, mais on ne sait pas se servir de ses armes. Ou comme le disait le docteur Abel, l'équipement est disponible, mais nous ne savons pas nous revêtir de cet équipement. Et il est important, par la grâce du discernement, de savoir à qui il faudrait faire confiance et avec qui il faudrait agir avec beaucoup de prudence. La Bible nous révèle que Jésus ne faisait pas confiance à tous ceux qui venaient vers lui. Jean 7 révèle que des gens venaient vers Jésus et ils flattaient Jésus, mais la Bible nous dit « Jésus ne prêtait pas attention à ce qu'il disait parce qu'il connaissait leur cœur par le discernement des esprits. » S'il y a une des grâces que l'Église néglige très souvent, c'est le discernement des esprits, le discernement des intentions. Ce n'est pas parce qu'un homme vous fait du bien que c'est une bonne compagnie. Et ce n'est pas parce qu'un homme vous dit des vérités qui vous blessent, qui vous déçoit. Il est important, par le discernement des esprits, de savoir qui est mon ami et qui ne l'est pas. Sans le discernement, nous pouvons faire de notre ennemi un allié ou un ami qui nous détruira de l'intérieur et faire de ceux qui étaient des alliés de la destinée des ennemis parce qu'on n'a pas su discerner l'esprit qui agissait en eux. En deux mots simples, par le discernement de l'esprit, mais aussi par une restauration de notre homme intérieur.
Est-ce que je peux rebondir sur ça? J'aimerais dire ceci à propos de la déception. Ne soyez pas pressé d'être déçu. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens se sont retrouvés déçus. Le pasteur Smith vient de parler des soupçons. Tout simplement parce que on lui a rapporté quelque chose sur le docteur Abel. Et puis vraiment, vous vous dites, vraiment, si le docteur Abel peut faire ça, vraiment, je suis déçu. Mais vous vous basez sur des soupçons et vous ajoutez foi à tout ce que vous entendez. Ou bien on vous dit, voilà, telle personne a dit 1, 2, 3, 4 sur vous. Regardez, vous voyez, vous le voyez en train, ça veut dire que... Alors vous commencez à détecter ou à chercher à interpréter les agissements, les discours, sans avoir eu l'occasion de rencontrer la personne. Avant d'être déçu, approchez ceux qui vous ont offensé. La Bible nous le recommande. Si un frère a péché contre vous, approchez-le, allez le voir. Dites-lui, voici ce qui m'a offensé dans ce que j'ai appris ou dans ce que vous avez fait ou dit. Donnez-lui l'occasion de donner sa version. Et donnez-lui l'occasion de se repentir si vraiment il a péché. Et ça, c'est très important parce que parfois dans l'Église ici, ce sont des choses qui tuent la communion. Nous sommes dans le même ministère, dans le même service, mais tel ne peut pas parler avec tel. Tel ne peut pas fréquenter tel. Tel ne peut pas manger avec tel. Parce qu'on se soupçonne. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'approcher ma sœur ou mon frère pour dire, est-ce que ce qu'on raconte est vrai? J'ai appris ceci. Voilà. Donnez à la personne l'occasion de donner sa version. Et si la personne refuse de se repentir et que les faits sont établis, la Bible dit associer un témoin. Oui, nous manquons souvent le courage de confronter les personnes qui nous ont offensés et nous nous réfugions dans la déception. Ça, ce n'est pas un comportement qui renforce la communion. Nous devons avoir le courage de confronter ceux qui nous ont offensés. Et très souvent, nous manquons ce courage parce que nous-mêmes, nous avons des choses à nous reprocher. Oui, parfois les péchés des autres révèle aussi notre propre position vis-à-vis de Dieu. Alors, parfois, le Saint-Esprit peut permettre que des choses comme ça arrivent, pas pour que l'autre se répande, mais c'est peut-être vous-même qui avez un problème. Vous devez changer. Alors, faisons un effort avant d'être déçus ou de nous déclarer nous-mêmes déçus. Approchons ceux qui nous ont offensés. Merci.
Merci beaucoup, Papa Abel. J'espère que les frères et les sœurs qui sont ici ont compris. Ne vous dépêchez pas d'être déçus. ne rompez pas par SMS, s'il vous plaît. Alors, il y a une autre question. Vous avez parlé de la bataille de la pensée, Pasteur Smith. Il y a un jeune qui a posé la question de savoir pourquoi, en tant que jeune, étant jeune, nos pensées doivent être captives à l'obéissance à Christ.
J'aimerais prendre le temps de répondre à cette question. J'aimerais quand même donner la réponse simple qui monte dans mon esprit. Simple. Parce que lorsque nous sommes, c'est parce que la vie, les bénédictions, le succès est attaché à l'obéissance à Christ. Tout simplement. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 9, si je ne m'abuse, David pose la question, le psalmiste pose la question, comment est-ce que le jeune rendra-t-il pur ses sentiers? C'est en marchant conformément à ta parole. En de termes simples, c'est en obéissant à ta parole. Ou encore, c'est en soumettant ses pensées à tes pensées. Pourquoi est-ce qu'un jeune doit vivre, doit maintenir ses pensées captives à l'obéissance de Christ? C'est parce que son avenir est l'accomplissement des promesses dont il est porteur et que la Bible révèle sont attachés à la condition selon laquelle nous devons agir fidèlement selon la pensée de Dieu. C'est tout ce que je peux dire à ce jeune. Il est bénéfique pour nous de nous laisser conduire par le Seigneur et c'est là par l'obéissance.
Merci beaucoup. Alors j'ai une question pour vous. Il y a une personne qui a demandé comment être victorieux face à la mort ou à la peur. Comment se dire, comme le pasteur Smith l'a dit, même si je mourrai, je suis prêt parce qu'après la mort, j'ai la vie. Alors, comment arriver à cette résilience-là?
Mais je ne suis pas suicidaire, hein, voilà.
Comment être victorieux face à la mort? La victoire, cette victoire, je pense que c'est... J'aimerais bien comprendre... La question, m'assurer que j'ai bien compris la question, c'est-à-dire, si jamais il y a ou une personne qui m'est chère décède, comment me relever de cette triste expérience? Je ne sais pas si c'est ça.
C'est en fait dire comment être victorieux de la mort, genre que moi-même d'abord, dans mon esprit, je puisse comprendre qu'est-ce qu'est la mort.
À ne pas avoir peur de la mort.
Oui, que ce n'est pas grave. Que je peux mourir et aller au ciel, par exemple.
Comme l'apôtre Paul le dit.
Comme l'apôtre Paul le dit.
La mort, pour moi, est un gain.
Exactement.
Oui, il souhaitait même mourir, Paul.
Oui.
Oui, oui. Ça vient de l'assurance du salut.
Exactement.
C'est l'assurance du salut. Nous paniquons. Bon, c'est vrai. Tout le monde, si une moto vient, veut me heurter, je ne vais pas me livrer parce que j'ai l'assurance du salut. Mais... Nous avons tous cet instinct de survie. C'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons faim, nous mangeons. Parce que personne ne veut mourir. Donc, mais vivre ou vaincre la peur de la mort vient de l'assurance du salut. Alors, comment avoir l'assurance du salut? C'est peut-être ça la question que vous allez me poser. Comment avoir l'assurance du salut? L'assurance du salut... C'est aussi une question de foi en ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, si Christ dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si Christ dit que celui qui vient à moi, hein, ceux qui m'appartiennent, mes brebis reconnaissent ma voix et je ne perdrai personne, n'est-ce pas, que le Père attire vers moi. Si Christ dit ça, l'assurance viendra de la foi que vous avez en ce qu'il a dit. Si vous croyez que Jésus ne peut pas mentir, vous aurez l'assurance. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où vous grandissez, votre relation avec le Seigneur est très florissante. Vous sentez, votre zèle pour le Seigneur augmente. Vous vous sentez victorieux chaque jour sur les péchés que vous commettez avant. ce sont des bénédictions. Parfois, ça augmente aussi notre assurance. Et c'est une très bonne chose. Mais au final, vous savez, quand même, quand Jésus a envoyé ses disciples aller chasser les démons, guérir les malades, proclamer l'évangile, les disciples sont rentrés en faisant le rapport à Jésus, en disant, voilà, c'était fantastique, maître. Il y a des démons qui nous sont soumis. Ils ont raconté, et Jésus, c'est comme si il les regardait, attendant qu'ils terminent. Et à la fin, il leur dit, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. L'assurance doit venir du fait que Christ dit, celui qui est un enfant de Dieu a la vie éternelle. Si vous croyez en ça, devant la mort, même lorsque la mort, si ça devient une situation qui est inévitable, eh bien vous aurez la paix. L'Esprit de Dieu va vous donner la paix. C'est la foi en ce que Christ, le fait que Christ ne peut pas mentir, que Dieu ne peut pas mentir, c'est ça qui nous donne l'assurance. Oui. Bien entendu, le risque de la fausse assurance existe aussi. Oui, mais peut-être ça c'est une autre question. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Pasteur Smith, vous pouvez ajouter quelque chose?
Oui, merci. J'aimerais dire comme le docteur Abel, j'aimerais rebondir sur cette question. C'est vrai, il y a l'assurance du salut. À cela, j'aimerais encourager quelqu'un à ajouter deux ou trois autres éléments. C'est que lorsque nous avons l'assurance du salut, notre perception de la mort change. Comme a dit le docteur Abel, je n'ai pas un esprit suicidaire. Déjà, quand j'ai faim, je mange pour ne pas mourir. Quand une moto est sur le point de tomber, le réflexe, c'est que le premier pas est déjà... J'assiste le motard dans l'arrêt de sa moto. Et mon épouse a fait cette expérience il n'y a pas longtemps. Elle a sauté avant que le motard ne soit par terre. J'ai compris que mon épouse ne voulait pas mourir. C'est à son retour qu'elle m'a dit, j'imaginais déjà à mes funérailles, c'est là que tu aurais choisi celle qui m'aurait remplacé. Tu serais... Quand vous priez pour mon couple, priez que la mort ne vienne pas avant mon épouse. Bref, la perception de la mort change. Je n'ai pas peur de la mort parce que pour moi, la mort est une porte vers le repos et vers la gloire. J'en suis convaincu. Vers le repos et vers la gloire. Ce qui affecte notre perception de la mort, c'est l'amour du siècle présent. Il y a des gens qui refusent. L'apôtre Paul présente la mort comme qui ne peut pas être un obstacle à son obéissance à la voix de Dieu. L'apôtre Paul ne nous encourage pas au suicide, mais il nous fait comprendre que la mort ne peut pas être une raison pour nous de désobéir à la voix de Dieu. Entre la vie dans le péché et la mort en Christ, il nous dit, pour moi, la mort est un gain. Je préfère mourir en Christ que vivre sans Christ. Notre perception de la mort change. Mais pour connaître le repos et la gloire, il est important de mourir dans une communion parfaite avec le Seigneur. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais aussi un autre élément à ajouter. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mieux nous le connaissons, mieux, plus nous aurons envie d'être là où il est et être tel il est. Vous n'avez qu'à poser la question à mon épouse. Elle a vécu très longtemps avec ses parents, mais lorsque je suis arrivé dans sa vie, ça s'appelle l'assurance du salut, je l'ai abordé en tremblant, c'est vrai. Mais j'ai utilisé la parole. Dites avec moi la parole. Son cœur a tressailli et ce qui était pour elle un gain est devenu de la boue. L'objet de son intérêt a changé. Elle ne voulait plus vivre avec papa, maman et ses sœurs, mais elle voulait s'attacher à l'homme qu'elle aime. C'est comme ça qu'aujourd'hui elle est avec moi. C'était une miss. Mais elle a porté mon enfant, elle commence à développer, elle commence à envahir un peu d'espace. Président, vous comprenez ce que je dis? Et c'est ce qui arrive au fait. Quand on aime, pour être sincère avec vous, Chaque jour, je me réveille avec la pensée que ça peut être ma dernière journée. J'ai hâte de revoir le Seigneur. Pourquoi ? Parce que ma Bible dit qu'il m'a aimé le premier alors que je ne le méritais pas. Peut-être que mon épouse a des raisons pour lesquelles elle m'aime, mais lui m'a aimé alors que je ne le méritais pas et il a donné sa vie pour moi. J'ai hâte de voir à quoi Jésus ressemble. Ce qui me permet de dire ça, c'est que mon cœur, jusqu'ici, je prie qu'il ne s'attache pas au matériel. J'aime mon épouse, mais pas plus que Jésus. J'aime mon enfant, mes enfants, mais pas plus que Jésus. Et demain, quand j'aurai des milliards, parce que quelqu'un m'a dit, « Pasteur, si vous n'avez pas peur de la mort, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup à perdre. » Et je lui ai demandé à quoi il faisait allusion. Il dit, « Nous autres, nous avons investi de notre temps à chercher l'argent. » Alors, nous autres, nous investissons de notre temps à entretenir notre communion avec le Seigneur. Je crois que le docteur Abel sera d'accord avec moi. Il a beau avoir un titre de docteur, mais si on vient nous braquer, nous menacer pour renoncer à Jésus afin de continuer à vivre, non, je crois qu'il mourra avant, moi je mourrai après. Et s'il meurt avant et que Dieu touche les ravisseurs et qu'il m'épargne, je l'enterrerai. Je ne leur dirai pas, tuez-moi parce que vous l'avez tué, ou vice-versa. Donc il y a l'assurance du salut. De cette assurance naît une perception nouvelle de la mort. Elle n'est plus une cessation, mais un temps de repos et l'entrée dans la gloire. Mais aussi, la peur de la mort tombe lorsque notre amour pour Christ grandit. Et lorsque nous sommes convaincus qu'il a le pouvoir de nous ressusciter bien que mort. L'assurance du salut nous donne la conviction et l'assurance de la résurrection. Beaucoup ont peur de la mort parce qu'ils pensent qu'après la mort, c'est fini. Moi, je sais que même si des brigands m'aient tué aujourd'hui, ils seront surpris, ces jours-là, je serai ressuscité. Et c'est ce que Jésus dit. Ne craignez pas ceux qui ne peuvent que tuer le corps. Et ceux qui croient en moi vivront quand bien ils seront morts. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que le docteur Abel disait. Que Dieu nous bénisse.
Merci beaucoup, pasteur Smith. Alors, Christ à la croix, il nous a donné la victoire. Sommes-nous tous victorieux à partir de ces jours-là? Ou alors, il y a ceux-là qui doivent devenir victorieux?
Quand je lisais cette question, je préférais la laisser d'abord au docteur Abel, parce que je savais qu'elle allait venir vers moi. Docteur Abel, je vous la laisse. Je vous la laisse.
Est-ce que nous sommes tous victorieux? Non. La victoire dont nous parlons, c'est la victoire de ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont morts avec Christ au péché. C'est eux qui sont candidats à la résurrection. Parce qu'ils ont en eux la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est cette puissance qui agit en eux. Donc nous ne sommes pas tous victorieux. Il y en a qui doivent le devenir. Et pour le devenir, ça passe par la croix. Ça passe par la croix. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut se repentir de soi-même et de son péché. Et accepter le salut que Jésus offre gratuitement. Lorsqu'on est passé par la croix, alors on a l'Esprit de Dieu qui nous rend victorieux sur le péché, sur nos propres convoitises de la chair et sur le monde. Voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter?
Ils sont beaucoup frites. Si oui.
Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Vous avez parlé de la compromission. Les deux orateurs ont parlé de la compromission. Et quand nous voyons le monde, quand il veut nous compromettre, il nous offre des choses, des voitures, le travail, etc. Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Hein? Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous avons la victoire sur nos pensées? Et par quoi est-ce que nous pouvons gagner la bataille contre la pensée?
Par quoi? Le deuxième volet de la question, c'est par quoi?
Par quoi est-ce que nous avons la victoire sur la pensée? Est-ce par la foi ou par la parole, par autre chose, qu'est-ce qui nous permet de vaincre nos pensées?
C'est moi qui réponds.
Oui, c'est vous d'abord.
Qu'est-ce que nous gagnons? Philippiens 3, que le pasteur Smith a évoqué tout à l'heure, parle du gain. Le gain, c'est Jésus-Christ. C'est ça que nous gagnons. Maintenant, beaucoup qui m'entendent sont un peu déçus. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de celui qui a posé cette question ou de toute personne qui écoute sur la gloire qui est attachée. La gloire qui est attachée à être un enfant de Dieu. Il n'y a pas une parole d'un homme qui peut vous ouvrir les yeux. Les premiers disciples, je vous ai parlé ici de Paul qui était un homme très respecté dans sa société. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous faire voir le bonheur de marcher avec Jésus. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vous ouvrira les yeux, vous allez dire comme Paul, mon mariage, mes diplômes, mon argent, ma tribu, mes ambitions, tout ça c'est de la boue à cause de Jésus. C'est ma prière. Mais je me sens incapable de vous ouvrir les yeux sur la beauté de ce que c'est que d'avoir Jésus. C'est ce que je peux vous dire. Mais le deuxième volet de la question, le pasteur Smith va répondre à ça.
On vous passe la balle, pasteur.
Maintenant, il renvoie les balles. J'aime la passion de Christ qu'exprime le docteur Abel dans sa réponse, et il a parfaitement raison. La rencontre avec Christ ne s'explique pas, elle doit être vécue. Elle doit être vécue. Quand un homme a réellement rencontré Jésus, c'est comme un amoureux à qui vous posez la question « Pourquoi tu aimes cette fille ?» Il vous dira « Si oui. » Un homme qui a vraiment rencontré Jésus, quand vous lui posez la question « Mais pourquoi tu aimes Jésus autant ?» Il vous dira « Je ne sais pas. » Mon parrain disait, si tu sais pourquoi tu aimes ta femme, c'est que tu ne l'aimes pas encore. Tu l'apprécies. Le jour où elle, tu découvriras toutes ses faiblesses, mais tu es quand même avec elle et tu continues à la supporter, tu l'aimes, tu la protèges. Il dit, c'est là que tu commences à l'aimer, quand tu découvres ses faiblesses. Vous savez, mes frères, qu'est-ce qu'on gagne en remportant les batailles de la pensée? C'est que on devient finalement des vases d'honneur pour Dieu. On devient des serviteurs en qui Dieu a pleinement confiance. Et le monde, l'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont refusé de se compromettre. On devient des vases d'honneur et c'est Dieu qui décide du service que nous sommes censés rendre. Dieu peut permettre que certains d'entre nous, à cause du renouvellement de l'intelligence, qu'ils servent Dieu au travers des millions qu'il leur donnera, au travers du soutien missionnaire qu'ils auront à témoigner à des églises et à des œuvres missionnaires. Mais à certains d'entre nous, par exemple, il pourra permettre que ta contribution dans la mission de Dieu soit que tu meurs. Jacques a fait 3 ans avec le Seigneur. Jacques a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais dites-moi, qu'est-ce que Jacques a fait après? Jacques est mort, décapité. Quelqu'un peut dire amen à une décapitation? Non, personne. Je prie que l'onction de Jacques soit sur toi. Quelqu'un posera la question, Jacques Wawapi. Pourquoi? Parce qu'il y a un Jacques qui a été décapité. Évêque, oui, mais on devient un vase d'honneur pour Dieu lorsqu'on se conserve pur. Et se conserver pur, c'est refuser de se compromettre par tout ce que le siècle présent nous propose. Comment purifier ses pensées? Comment parvenir à cela? C'est par le renouvellement de l'intelligence, et le docteur Abel l'a dit.
Je viens dire à quelqu'un que la prière ne change pas le cœur de l'homme. Seule la parole est une semence qui transforme. La prière est comme un tracteur qui prépare la terre à recevoir la semence qui est la parole de Dieu. Un homme qui prie beaucoup mais qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne se verra jamais renouvelé dans son intelligence. Un homme qui prie beaucoup et qui obéit à la parole de Dieu verra sa vie être un canal de bénédiction pour plusieurs. C'est ainsi que Paul pouvait dire, alors que la mort agit en nous, la vie agit en vous. Pourquoi nous devenons des réceptacles? Nous diffusons la vie de Christ qui agit en nous parce que nous sommes des serviteurs fidèles. Et la jeunesse, nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner. Ce qui manque à cette jeunesse, c'est le modèle. Nous envions ceux qui sont arrivés, mais nous n'arrivons pas à payer le prix qu'ils ont payé. Le prix d'être rejeté, incompris, méprisé. Et lorsque Dieu renouvelle notre intelligence, ce que nous trouvions normal à l'époque devient à nos yeux anormal. Et c'est lorsque nous trouvons anormal ce que la majorité trouve normal que la majorité nous trouve maintenant anormal. Pour peut-être illustrer ce que je dis, j'ai suivi une publicité où on montrait, on imaginait un peu la scène lorsque l'homosexualité aura gagné du terrain. Les couples que nous appelons des couples normaux aujourd'hui ou normaux, aux yeux des homosexuels, dans les années qui viennent, deviendra des couples archaïques. Demain, ce sera lorsqu'on voit un mari et une femme se promener main dans la main, vous entendrez des homosexuels critiquer en disant « ils sont encore de la vieille école ». Ibi Bingali. Mais il est important, mes frères, que lorsque le monde commencera à trouver anormal ce qui est normal aujourd'hui, qu'une génération avec une intelligence renouvelée se lève et reconnaisse que est normal ce que Dieu approuve. Et anormal, c'est que Dieu rejette, quel que soit ce que le monde propose. Voilà ce que je pouvais ajouter.
Merci. Une dernière question. Que faire lorsque la chair pèse trop sur nous? Que faire lorsque la chair pèse trop sur nous? Docteur Abel.
Il y a beaucoup de questions qui ont été formulées avec cette formule. Que faire? Que faire? J'aimerais dire que la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, beaucoup de victoires que nous remportons, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Dans la vie chrétienne, nos victoires viennent souvent de ce que nous laissons Dieu faire en nous. Très souvent, il s'agit de se laisser, de se laisser, de se laisser faire par Dieu. Il s'agit très peu des efforts que nous devons fournir. Il s'agit plus de ce à quoi nous devons renoncer. Accepter seulement que le Saint-Esprit nous prenne en charge, si je peux employer le terme. Et très souvent, nos progrès sont lents parce que nous voulons contrôler. Nous voulons conduire le processus. Nous sommes trop préoccupés par ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Le plus important, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous modeler et être prêt à dire Seigneur, oui, même lorsque c'est contre ce dont j'ai envie. De dire « Seigneur, oui ». Quand la chair pèse trop, la chair ne va pas peser trop pour rien. La chair va peser trop parce que nous la nourrissons trop. Oui, quand vous avez deux chiens chez vous à la maison, le chien qui sera fort, c'est celui que vous nourrissez le plus. Mais si vous affamez la chair et vous nourrissez l'esprit, la chair deviendra faible. La chair deviendra faible. Nous ne pouvons pas nous défaire de cette chair. Nous l'aurons jusqu'à la mort. Ses passions resteront jusqu'à notre dernier souffle. Parce que la chair ne peut pas être sauvée. Oui. Mais nous aurons un nouveau corps, le corps glorieux, à la résurrection. Mais bien aimé, la chair pèse parce que nous la nourrissons. Et nous la nourrissons comment? Avec les médias. Nous la nourrissons avec les compagnies inutiles. Nous la nourrissons avec... Oui, vous savez comment vous les nourrissez. Mais nous nourrissons l'esprit. Nous nourrissons notre homme nouveau par la prière, par la méditation de la parole, par la communion. C'est par ces trois choses que nous nourrissons notre être intérieur. Affamer la chair, elle deviendra faible, elle ne va plus peser sur vous.
Merci beaucoup, docteur Abel. Nous sommes à la fin de ce panel. Nous vous disons merci d'avoir été aussi attentifs. Et pour clore cette série, je vais demander à nos orateurs de pouvoir donner juste une conclusion brève du message qu'ils ont eu à nous partager tout au long de ce mois. Nous commençons par le pasteur Smith.
Un résumé. À la croix, Christ a rendu disponible une vie qui nous était inaccessible, à la croix. Mais pour jouir de cette vie, il est important par la foi de se connecter à cette grâce, tout en gardant à l'esprit que la chair, le monde et le diable ne nous laisseront pas vivre tranquillement la vie chrétienne. Et notre pire ennemi, c'est la chair, qui veut vivre victorieux et continuer dans cette série de victoires, doit compter sur la grâce que Christ a rendue disponible à Golgotha d'abord, doit crucifier la chair en la traitant durement, comme l'a dit le docteur Abel, en affamant la chair, en lui privant la satisfaction de se convoiter. Et troisièmement, en marchant par l'esprit. Et c'est alors que victorieux ne sera pas pour nous qu'une simple série et un slogan, mais une vie qui sera pour plusieurs un modèle. Merci.
Merci beaucoup, pasteur Smith. Yes. Docteur Abel.
Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette série. La parole de Dieu dit que notre victoire, c'est la foi. Notre victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la foi en ce que Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous entendez, le diable aura de l'avantage sur vous en utilisant le mensonge, parce qu'il est le père du mensonge. Le diable va vous mentir sur ce que vous êtes. Il va vous mentir sur ce que vous avez ou sur ce que vous n'avez pas. Il va vous mentir sur votre avenir. Si vous avez foi en ce que Dieu dit sur ce que vous êtes, si vous avez foi en ce que Dieu dit sur ce que vous avez, sur la valeur de ce que vous avez en Jésus, si vous avez foi en ce que Dieu dit sur ce que vous serez avec lui, en marchant avec lui, vous aurez la paix, vous aurez la joie devant les sollicitations que l'ennemi... Les sollicitations de l'ennemi ne vont pas vous intimider, parce que les sollicitations de l'ennemi trouveront en vous une personne qui est rassasiée. Quand on est rassasié, on n'a plus envie de rien. Rassasiez-vous de Jésus, vous serez victorieux.
Amen. Merci beaucoup. Merci, chers orateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer à acclamer les seigneurs pendant qu'ils sont en train de se rendre à leur place. Et nous disons merci à Dieu pour ce si grand et bon message.